Donc, en introduction, je vais essayer d'expliquer le titre, hein, des titres valant un peu contrat, hein, avec les auditeurs, hein, SAD sérieusement, qui consiste à prendre le contre-pied d'une lecture, disons, romantique ou au moins post-surréaliste de Sade. Cette lecture, qui est extrêmement banale, hein, commune, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est dépourvue de tout intérêt, met souvent l'accent sur le fait que pour nous, Sade, c'est quelque chose qui relèverait, par exemple, de quelque chose de l'ordre de l'humour noir, par exemple, hein. D'une forme de dynamitage particulièrement moderne de l'imaginaire érotique, hein, que Sade serait en fait, et on prélève, on découpe à l'intérieur du corpus sadien les textes qui permettent de soutenir ce genre de thèse, en fait un révolutionnaire, hein, un artisan de l'émancipation qui a sa place inscrite dans le champ de la philosophie des Lumières, aux côtés de Rousseau ou de Diderot, par exemple, ou de Voltaire. Mais ce serait surtout quelqu'un qui aurait, avec l'outrance provocatrice de sa production littéraire, hein, c'est essentiellement, je pense, Maurice Blanchot qui a énormément marqué ce point, introduit un nouvel infini dans la littérature, hein, un infini, la perspective, d'une transgression universelle, systématique, de choses que l'on ne pouvait pas dire ou que l'on n'aurait pas pu dire et qui se seraient déchaînées dans le cadre de la littérature clandestine libertine du XVIIIe siècle de manière paradigmatique avec Sade. Ainsi, infini qui serait en même temps, et c'est pour ça que je parlais de lecture romantique et post-surréaliste de Sade, infini dont seuls, au fond, les avant-gardes pourraient, après Sade, apprécier la véritable valeur. Et que chaque avant-garde, rencontrant par exemple la question du discours sur le sexe, l'érotisme, l'amour, etc., ne serait pas sans devoir quelque chose à Sade. Et alors ceci, toute cette conception des choses, ceci serait un peu malgré les sophismes prétendument évidents, hein, de Sade, malgré ce qu'il est convenu d'appeler les ennuyeuses dissertations qui ponctuent les tableaux d'orgie dans ses écrits, et quelquefois même en rangeant la production philosophique de Sade dans ce qu'il est commun d'appeler l'antiphilosophie, hein, ce qui évidemment aurait fait sauter au plafond Sade, hein, puisque ce qu'on appelle l'antiphilosophie au XVIIIe siècle, c'est au contraire la position catholique, théologique, réactionnaire, opposée aux Lumières. Hein, être un antiphilosophe au XVIIIe siècle, c'est justement être un ennemi des philosophes au sens propre, c'est-à-dire de Voltaire, Rousseau, etc. Alors, il y a là toute une constellation de positions qui ont guidé l'exégèse, qui ont guidé parfois même l'édition, hein, du texte de Sade, le type de choses que vous choisissez de commenter, par exemple chez Michel Delon, dans la Pléiade, etc., le type de référence que vous pensez nécessaire de donner au lecteur, hein, qui est très intéressant, la manière dont sont édités, notamment quand c'est un corpus qui fait canon, comme dans la Pléiade, hein, par exemple, dont sont édités ces textes, et qui est très marqué par les travaux d'Annie Lebrun, les travaux de Sade, sur Sade de Foucault et Barthes, hein, qui sont eux-mêmes en provenance de lectures très soigneuses de Blanchot, et dans une moindre mesure, parce qu'il y a chez eux, chez les deux auteurs que je vais noter, et surtout chez le premier, Klossowski, la découverte du fait qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose en fait qui soit vraiment philosophique ou métaphysique chez Sade, et Lacan qui s'inspire énormément de Klossowski, des textes de Klossowski des années 30, également quelque chose qui reconnaît une puissance intellectuelle à Sade, mais qui ne réussit pas à se décoller de l'idée qu'il s'agit en fait de sophisme. La notion de perversion, l'idée même qu'on puisse être pervers, communiquant avec, et ça c'est un motif qui n'a jamais cessé parce qu'il vient en fait de la psychopathologie, de communiquer avec l'idée que qui dit pervers, et surtout la très grande perversion criminelle, peut prétendre avoir quelque chose comme des arguments rationnels, des justifications de raison, mais en réalité fait valoir un aspect qui est quelque chose de l'ordre de la déraison et non pas de la raison. Alors, aucun de ces auteurs ne considère que Sade pourrait être pris sérieusement au premier degré. Hein, que ce qu'il dit, soit c'est traité comme du symptôme de quelque chose qui est éventuellement, par exemple, sa structure psychique, hein, y compris même chez Lacan, qui est certainement un des lecteurs les plus généreux parmi les psychologues ou psychanalystes de Sade, hein, infiniment plus généreux que des auteurs qui rabaissent Sade vraiment à presque un pur et simple malade, hein, qui sont quand même malheureusement la population dominante dans le camp des psychologues et des psychanalystes. Aucun d'entre eux ne prend sérieusement Sade au premier degré, c'est-à-dire notamment, en particulier, quant au contenu de ses thèses philosophiques et morales, ni non plus, et ça c'est quand même absolument fascinant, quant au projet de Sade, qui est, par la circulation de ses écrits, qui seront appelés plus tard de la littérature, un projet de corruption universelle médiée par la diffusion de ses propres textes. Hein, c'est de faire en sorte que les gens consommant sa littérature, séduits par sa littérature, bien au-delà de sa vie, bien au-delà de sa mort, donc, continue à être infecté positivement par les idées atroces qu'il s'est voué toute sa vie à leur instiller. Et donc, à ce point, hein, le point de départ que je voudrais prendre, c'est que, au fond, Sade est tombé victime, au fond, de la lecture positiviste des Lumières. Hein. C'est Auguste Comte, le premier, qui considère que les philosophes du XVIIIe siècle ne sont, comme il dit, que des littérateurs. C'est à partir d'Auguste Comte que quelque chose du sérieux philosophique a été radicalement dénié aux philosophes des Lumières, pour des raisons substantielles, hein, parce qu'ils étaient avant la Révolution française, avant le moment où se réalisent les idéaux de la modernité à travers le développement du droit, de la science, des États modernes, etc. Et qu'ils étaient donc condamnés, ces philosophes des Lumières, à n'être que des littérateurs. C'est lui qui le prend. Et s'il y a de la littérature, c'est parce que c'est de la littérature, c'est ce que produisent les littérateurs. Mais il y a un terme fondamentalement péjoratif dans la compréhension positiviste qui a largement dominé les études littéraires sur le XVIIIe siècle. Et Sade tombe là-dedans. Si bien que le fait que Sade ait véritablement voulu toute sa vie avoir raison, l'idée que Sade a, c'est vraiment lui, a pris au sérieux le projet de la philosophie des Lumières en disant que ce qu'il disait, c'était pour avoir raison, pour attraper quelque chose du réel, a été entièrement passé de côté, ou traité plutôt, dans la perspective Blanchot-Foucault, comme une instanciation de la déraison. Le problème, c'est que si vous m'accordez cette prémisse, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris au sérieux, sérieusement, la forme et le contenu de l'œuvre de Sade, alors on se retrouve sur les bras avec la tâche symétrique et inverse. Comment peut-il se faire que ça ait fait littérature ? C'est-à-dire que si vous ne dites plus c'est de la littérature qui se sert de motifs philosophiques comme ça pour assaisonner des tableaux d'orgie et que ces passages philosophiques sont ennuyeux chez Sade, et bien vous vous retrouvez dans la position exactement d'avoir à rendre compte du fait que, alors comment peut-il se faire que justement un certain nombre de grands auteurs romantiques, même si c'est sous le manteau, hein, font circuler l'œuvre de Sade, s'en inspirent et comment ça a pu nourrir toute une réflexion proprement littéraire après coup. Si ce ne sont pas des arguments pour rire, pourquoi cet ancrage, cette expression qui est finalement prise dans la littérature et qui produit en tout cas des effets majeurs sur la littérature? Alors que si vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel manuel de philosophie morale, les arguments de Sade sont universellement déconsidérés ou même pas mentionnés du tout dans l'analyse en philosophie morale, pour ne rien dire de, du fait que ça relève de l'illustration de bas de page pour raconter ce que c'est qu'un pervers, à quel point les pervers peuvent être intelligents dans le discours habituel des psychologues ou des gens qui font de la psychopathologie ou de la psychiatrie, mais sans que ça les engage davantage plus à rencontrer ce que c'est que le discours pervers. Et notamment le fait que le discours pervers a quand même des modalités qui font qu'il se renouvelle, se reconstruit, etc., et que certains de ces éléments les plus sidérants peuvent se retrouver dans la clinique, des pervers. Alors, je le dis d'autant plus que j'ai décidé, que maintenant ce n'est plus un secret, que dans le livre dont, que j'ai consacré à la question, là, Pervers, analyse d'un concept suivi de Sadarome, que mentionnait Alexis à l'instant, les exemples que j'ai pris de notes de bas de page, les exemples sont en réalité des exemples réels, hein. Ce sont en fait les gens que je cite, c'est Fourniret, c'est tout simplement parce que j'ai été le collègue à l'hôpital de leur expert, Zaguri, et que donc j'ai utilisé les documents d'expertise qui m'ont été donnés par ces très grands assassins, meurtriers, Fourniret, Allègre, etc. Et ce sont leurs propos, en fait, que je cite, et ce ne sont pas du tout des propos inventés en termes de comme on fait quelquefois en philosophie de l'esprit aujourd'hui, en inventant des situations extrêmes, ce sont littéralement des propos qu'ils ont tenus à leurs experts et dont on voit de manière cristalline qu'en réalité, ils sont bien de l'étoffe de ce dont nous parle Sade ou de ces pervers modernes. Hein. Et ils le sont, en particulier chez Fourniret et chez Patrick Allègre, d'une manière, qui n'ont jamais lu Sade, extrêmement conscientisée et réflexive, hein, avec une authentique pénétration intellectuelle sur le mal, hein, et l'optimisation, la maximisation du mal et de la situation la plus... Comment produire la situation la plus destructrice possible pour la victime. Bon. Donc ce sont des choses qui ne sont pas totalement déconnectées de l'activité des cliniciens. Alors, je vais, dans ce que je vais maintenant vous développer, dire la chose suivante, c'est qu'il y a un endroit où Sade, mon hypothèse de lecture, hein, mon hypothèse de lecture, c'est celle qui évoque ce que Althusser disait de Rousseau. Elle l'évoque, même si elle s'en démarque. Dans l'impensée de Jean-Jacques Rousseau, Althusser fait remarquer qu'il y a des concepts philosophiques auxquels fait défaut la possibilité historique et sociale de se déployer pleinement. C'est-à-dire que les concepts philosophiques que vous trouvez chez Rousseau, celui de contrat social, c'est de corps politique constitué sur un mode démocratique qui commence déjà à évoquer les figures de la modernité, hein, de quelque chose qui va avec la Révolution française commencer à se réaliser. La Révolution française ne cesse d'invoquer Rousseau, aussi bien sa philosophie d'ailleurs que ses œuvres littéraires. Hein, le sentimentalisme rousseauiste est une matrice fondamentale de la rhétorique de la Révolution française, des premiers en tout cas de la Révolution française, et que, au fond, les horizons objectifs du philosophe, dit Althusser, ne peuvent être atteints. Et que, aussi bien le second discours, la dénonciation des inégalités, que le contrat social, le type de remède politique que Rousseau propose, ne peuvent rester qu'une révolution en pensée, une révolution de pensée, et qu'il y a un reste. Et que ce reste d'effectuation oblige Rousseau à passer à la littérature. Et qu'on comprend la nouvelle Héloïse, on comprend les rêveries du pommeur solitaire, on comprend comme étant la trace maintenue de quelque chose qui est le sérieux du développement philosophique de Rousseau, se heurtant à l'impossibilité d'une effectuation objective complète d'un projet qui reste un projet en pensée, un procès d'émancipation en pensée. Et le passage à la littérature, dit Althusser, est la trace de cet échec, hein, de cette impensée, qui peut éventuellement donner lieu à quelque chose qui est une utopie sentimentale. L'invention du cœur romantique, l'invention de la fuite dans la nature, fuyons dans la nature une société essentiellement corrompue, hein, arrive hein, dans le constat de, d'une impossibilité sociale et historique de déployer précisément ce qui est purement en soi, en quelque sorte, comme dirait un Hegelien, conceptuellement, vous voyez, présent dans l'analyse philosophique. Il y a une lectio difficilior, hein, une manière de lire plus difficile et plus exigeante du même procédé, qu'on trouve d'ailleurs chez Althusser, qui consiste à dire que ce n'est pas une faiblesse ou un simple effondrement de la philosophie en littérature, mais que c'est au contraire le refus de se contenter d'un vocabulaire utopique et le souci de maintenir au moins au niveau de l'affect, de l'émotion, de la rhétorique et du langage que l'écrivain façonne pour que d'autres puissent s'en saisir et y reconnaître, quelque chose qui n'a pas la puissance émancipatrice revendiquée, la thèse objective philosophique sur la liberté, sur la reconstruction d'un monde qui ne serait pas aliéné. Et donc la littérature conserve au niveau de la langue et au niveau de la communication des émotions les promesses émancipatrices de la philosophie. Par quoi ? C'est, vous voyez, quelque chose qui ne met pas le passage à la littérature en position de déchet ou d'échec, mais au contraire de l'ultime sérieux qu'il peut y avoir dans la philosophie du XVIIIe siècle, la philosophie de Rousseau, de maintenir par le façonnage de la langue et la création des sensibilités une future possibilité de créer le type de public pour qui les concepts philosophiques pourront avoir la portée émancipatrice que revendiquée par les philosophes des Lumières. Eh bien, il y aurait, c'est l'hypothèse que je vais déployer devant vous, une autre figure encore de cette articulation entre la philosophie et la littérature, d'une philosophie qui, effectivement, ne peut pas aller au terme de l'effectuation objective de ses propres horizons, et qui donc aboutirait à ne pouvoir rester sérieuse quand, dans ses prétentions philosophiques, qu'en façonnant et par la langue et par la sensibilité affective un type d'humanité qui un jour pourra se saisir de la vérité émancipatrice du texte lui-même. Et donc, vous voyez, ce qui marque la différence avec la lecture habituelle de Sade, c'est que je ne suis pas en train du tout de vous dire qu'il y a chez Sade, en tant qu'écrivain, en tant que littérateur, comme disaient plus péjorativement les positivistes, un infini littéraire avec simplement des parenthèses philosophiques, des emprunts à d'Holbach, au néo-épicurisme, à des choses comme ça, vous voyez, avec des emprunts au matérialisme de l'époque. Non, je pense qu'il y a un sérieux philosophique qui ne peut pas faire autrement qu'à un moment de se donner la forme du roman, pour se continuer aussi loin qu'il est possible dans son projet. Sauf qu'évidemment, ce projet est un projet radicalement pervers, un projet radicalement terrifiant, hein, dont peut-être on ne mesure même pas, précisément quand on se protège derrière la littérature et même derrière l'imputation d'une structure clinique, c'était un pervers exemplaire ou typique, un masochiste, voilà, hein, comme on sait maintenant par les récits de sa vie, dont on se protège et dont on ne voit pas comment, il se fiche bien du diagnostic, car il nous corrompt, il continue à nous corrompre. Alors, c'est pour ça que je suis parti du dernier roman que Sade a pu effectivement écrire complètement, sans se le faire voler par la censure, sans se le faire détruire, etc., qui est l'histoire de Juliette, qui a occupé ces dernières années de relative liberté, et où déjà Klossowski et plus tard Lacan ont bien identifié qu'il y a deux textes philosophiques d'une facture exceptionnellement riche et raffinée, le discours de Saint-Fons et le discours du pape Braschi, qui sont les deux grands moments philosophiques de l'histoire de Juliette, et qui sont très systématiquement, par les gens qui sont penchés sur ces deux textes, ramenés à des sophismes, à des choses incompréhensibles, à des contresens, etc. Mais au moins chez Klossowski et chez Lacan, sont-ils tenus pour des pensées. Or, ce sont les exposés les plus soigneux que Sade a laissés de sa conception du mal pervers, du mal absolu, de l'ambition de produire et d'arriver, à force de cogitation, de concentration et de réflexion, à produire le mal le plus absolu possible. Et c'est d'ailleurs une des premières figures dans lesquelles vous voyez apparaître dans le paysage intellectuel de la modernité, l'ambition du génocide. C'est vraiment le meurtre de masse structurellement organisé par le pouvoir. La première fois qu'on le voit penser résolument, c'est notamment dans le discours de Brasky. Alors, le problème, c'est que Sade, étant extrêmement averti de la littérature morale de son temps, je rappelle qu'à la prison, quand vous lisez la correspondance avec sa femme, quand il est enfermé, il ne fait pas venir de littérature. Il ne fait venir que des traités de morale. C'est la seule chose qu'il lit quand il est en prison. Les problèmes conceptuels du mal absolu, y compris d'ailleurs dans la philosophie morale contemporaine, c'est un point que je discute d'un point de vue de philosophe analytique dans mon livre, sont exposés à des difficultés intrinsèques et que ces difficultés n'ont tout simplement pas bougé. Elles sont assez fixes du point de vue conceptuel. Alors, la première difficulté, c'est que le mal absolu, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Mal absolu, lit-on assez souvent dans la littérature de la philosophie morale contemporaine, ne signifie rien parce qu'on peut avoir un mal très grand, un mal pire que le mal qui est connu, mais si on absolutise le mal, alors c'est un argument extrêmement courant de la philosophie morale contemporaine, on ne dit plus rien. C'est-à-dire que soit on est condamné à des images irrationnelles qui terrifient le lecteur, mais qui n'ont plus de texture conceptuelle, soit on sort complètement de la rationalité et on est obligé soit de dire « ces gens sont des fous », c'est-à-dire de naturaliser le mal absolu en disant « ce sont des délires de pervers, de grands pervers, criminels, etc. », soit d'avoir recours à des concepts de type théologique en disant « en fait, ce qu'on appelle le mal absolu, c'est une petite ressucée laïque ou pseudo-rationnelle du diabolique de la religion hein, ». Il y a du diabolique, il y a du satanique, et qu'en fait, on est dans un hors de la raison, dans le registre de la foi, hein, pour penser qu'il puisse y avoir des choses de ce genre. Il en ressort dans la littérature dominante, hein, sur la question de la philosophie morale du mal, hein, que le mal absolu n'est pas un concept, c'est au contraire une limite du conceptualisable en morale. Et que quand on commence à avoir recours à cette notion de mal absolu, c'est qu'en réalité, on ne pense plus rien, on a dépassé un certain seuil au-dessous duquel on pourrait penser effectivement ce que c'est que le mal. Alors, au XVIIIe siècle, déjà, cette idée-là est tout à fait banale et courante. Hein. Sauf que, depuis au XVIIIe siècle, vous avez toutes sortes de phénomènes qui sont d'ailleurs liés en particulier à l'interprétation des abominations de ce phénomène qui est de ce grand phénomène social qui a été, donc nous avons totalement oublié aujourd'hui, mais qui a été la Shoah du XVIIe siècle et qu'on appelle la guerre de 30 ans. Voilà. La guerre de 30 ans en Europe, pensez par exemple aux estampes de Callot, par exemple, l'arbre pendu, etc. C'est un massacre dont il n'y a dans l'histoire de l'Europe aucun exemple qui a tué autant de gens que la Deuxième Guerre mondiale, sauf qu'on n'en a plus aucune idée. Ça a tué des dizaines de millions de gens en Europe centrale sur 30 ans, des famines, des massacres, des viols de masse, etc. Enfin, c'était un anéantissement de l'humanité européenne qui a été oublié, mais qui a absolument frappé les esprits. Et puis, au XVIIIe siècle, c'est la mémoire de ces événements naturels gigantesques, dont le tremblement de terre de Lisbonne, sur lequel Voltaire a largement écrit, n'est-ce pas, est un exemple. Le tremblement de terre de Lisbonne a donné lieu à des descriptions si effroyables qu'il a sonné le glas, au fond, de tout l'optimisme leibnizien qui permettait de penser, au fond, que le mal n'était qu'un défaut du bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mal absolu, que le mal n'était rien par lui-même, mais que le mal était un point de vue que la créature finie adopte sur le fait qu'il y a des imperfections, qu'il y a une échelle des perfections, et que quand on décroche du sommet de cette échelle des perfections, le mal n'est qu'un simple défaut du bien. Au XVIIIe siècle, comme pour nous, hein, spectateurs du génocide arménien, du génocide juif, du massacre des Tutsis, du génocide des Tutsis au Rwanda, hein, l'idée qu'il puisse y avoir du mal absolu, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement, mais où nous avons besoin d'un concept du mal absolu pour penser ce que les hommes peuvent faire, commence à apparaître au XVIIIe siècle de manière absolument explicite, réflexive, thématisée, opposée à la théologie, opposée aux croyances des gens. Et donc, quand on commence de sortir de l'idée du mal comme simple défaut du bien, eh bien, on arrive à l'idée de mal positif. Et à cet égard, qui est un mal positif, est, je crois, un des apports méconnus mais centraux de Kant. Dans l'essai de Kant sur les grandeurs négatives, pour la première fois, Kant dit « il peut y avoir quelque chose comme un mal qui est autre chose que la simple imperfection du bien, mais qui est un mal positif et un mal qui est d'ailleurs voulu en tant que mal ». Et c'est une grandeur négative, et une grandeur négative n'est pas un défaut ou un déficit. C'est une positivité propre dans le registre du négatif. Et que ce qui est vrai avec la théorie newtonienne de l'action et de la réaction, avec on a besoin de grandeurs négatives qui sont des grandeurs réelles dans le domaine de la physique, vaut aussi dans le registre moral. Hein, et dans l'essai sur les grandeurs négatives, vous avez, en même temps au même moment que Sade, la prise de conscience que les ressources conceptuelles dont les modernes ont besoin pour penser leur réalité en tant que sujet et comme individu impliquent, pour avoir égard à la force de leur volonté, cette notion absolument inédite de grandeur négative. Sauf que, dit Kant, hein, qui reste à cet égard entièrement luthérien et chrétien, hein, l'homme peut bien avoir un penchant au mal, mais il ne peut pas vouloir le mal pour le mal. Ça, c'est vraiment une position kantienne extrêmement forte. Le même qui affirme que le mal est une grandeur négative affirme en même temps que nous ne pouvons pas vouloir le mal pour le mal, que ceci est un privilège angélique dans la théologie, etc. Bien évidemment, vous comprenez pourquoi les gens qui depuis toujours mettent en parallèle Kant avec Sade ne disent pas n'importe quoi. Ni Kant, ni Adorno, par exemple, qui ont travaillé, etc., ont tous extrêmement bien saisi que le véritable enjeu, c'est là, c'est de savoir si cette liberté pour le mal que rend possible la nouvelle configuration de la volonté à l'époque moderne, à l'époque de la naissance de l'individualisme et du XVIIIe siècle, ne rend pas justement possible qu'on puisse vouloir le mal pour le mal, et même que ce soit le vertige essentiel de la finitude humaine. Par là, la figure d'un pervers qui est un homme ou une femme parmi nous, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un fou, juste une délirante, etc., mais qui est parmi nous et qui explore des potentialités qui sont des potentialités essentielles de l'humanité, commence à prendre forme avant sa naturalisation psychologique et tous les procédures d'exclusion et de sortie, n'est-ce pas, ce sont des malades, des déficients, etc., qui ont pris le pas sur le reste. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir le mal pour le mal? Ça veut dire qu'il faut faire une distinction conceptuelle entre un méchant, quelqu'un qui est simplement méchant, et quelqu'un qui est malfaisant. Parce que méchant, vous pouvez l'être involontairement. Tandis que le malfaisant, ce que j'appelle le malfaisant, c'est celui qui l'a voulu. Et alors, c'est plus compliqué à faire en français qu'en anglais, mais c'est la distinction entre un wrongdoer et un evildoer, en anglais. Et c'est la question de savoir, donc, s'il existe des êtres malfaisants. Ça a été extrêmement centré au XVIIIe siècle, à un moment de l'émergence de l'individualisme, sur la question du malfaisant, qui est le prototype du pervers. Alors voilà le deuxième problème, hein, c'est d'établir la légitimité conceptuelle d'une catégorie comme celle du malfaisant. Ça ne peut étrangement se produire, l'invention de cette catégorie du malfaisant, que dans une société où les êtres humains sont de plus en plus développés, cultivés, interdépendants les uns des autres. Et dans cette interdépendance, c'est ce que Rousseau n'a jamais cessé de souligner, les possibilités que nous avons de nous nuire les uns aux autres deviennent aussi infinies que les possibilités que nous avons les uns pour les autres de nous avantager, de nous servir et de nous être mutuellement utiles. Et donc l'émergence de cette figure-là apparaît à la fois au moment où la division du travail, l'intégration du monde du travail, la prospérité de la société marchande et proto-capitaliste du XVIIIe siècle se déploie, et où en même temps, dans cette société-là, apparaît la figure d'un égoïsme dont il n'y a jamais eu aucune espèce de représentation, même dans les condamnations religieuses les plus classiques du XVe, du XVIe siècle ou de l'époque médiévale. Il y a des formes d'égoïsme radical qui deviennent possibles. Alors ensuite, la question est du mal absolu comme ce qui est toujours représenté comme le pire possible, le superlatif du mal. Alors, est-ce qu'on peut donner un sens au pire? Et en particulier à la formule que j'ai employée pour en souligner la valeur et qui va me conduire à comprendre la structure même de l'histoire de Juliette, à la formule qui est le mal absolu, c'est le pire que mal. Vous avez un mal, et bien le mal absolu, s'il est absolu, la manière la plus simple de le caractériser, c'est-à-dire pire que mal. Là, vous allez me dire, grammaticalement, votre truc ne tient pas la route. Il ne peut pas exister pire que mal. Il ne peut pas exister pire que mal si vous traitez la grammaire comme une grammaire vide. Si vous la traitez comme une grammaire philosophique, elle fait écho à une figure qui, elle, a ses lettres de noblesse dans la tradition morale et théologique, c'est la formule « mieux que bien ». Or, il y a, dans la tradition théologique chrétienne, une figure du « mieux que bien ». C'est même la figure centrale de la théologie médiévale qui prétend surmonter et aller plus loin que la philosophie d'Aristote, chez Thomas, en indiquant qu'au-delà du bien suprême aristotélicien, au-delà de la justice, il y a une vertu qui va au-delà de la justice, dont les anciens ne pouvaient rien savoir parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, et qui est la charité. La charité, c'est cette vertu qui est au-delà de la vertu de justice, qui n'est dispensée que par un effet de la grâce et pas du tout par le jeu des tendances naturelles et rationnelles de l'esprit humain, et qui se déploie dans un espace où le charitable, ce qu'il fait, c'est mieux que bien. Alors, c'est précisément, si vous commencez à comprendre ce que veut dire, comment on a pu construire l'idée d'un mieux que bien, qu'on peut avoir une idée de ce que c'est qu'un pire que mal. D'un mieux que bien, parce que ça a deux aspects qui sont très importants dans la conceptualisation du mal absolu. C'est que s'il y a du mieux que bien, s'il a par exemple la charité, ce qu'on appelle une vertu surérogatoire, qui vient en plus de celles qui sont rogatoires, autrement dit obligatoires, comme d'être juste, de rendre à chacun son bien, etc. On vous demande de rendre à chacun son bien. On ne vous demande pas de diviser votre manteau en deux pour habiller l'homme qui a froid. Hein, tout ceci qui vient en plus, ça ne peut venir que par un mouvement de la grâce. Eh bien, dans ce cas, on est au-delà de la règle. Si on est au-delà de la règle, il ne saurait, ça c'est absolument typique de la théologie morale chrétienne, y avoir qu'un exemplier de la charité. On ne peut, c'est quelque chose qui est toujours de l'ordre de l'exemplier, c'est toujours des figures qui sont individualisées, et donc c'est toujours lié à la pratique des saints qui reçoivent une grâce. Parce qu'il n'y a aucune règle qui permette de dire ce qu'est la charité dans une situation particulière. Alors qu'il y a toujours une règle qui permet de dire ce que doit être la justice, distributive, par exemple, etc., dans quelle que soit la situation. Et d'autre part, ne perdez pas de vue que cette idée du mieux que bien, c'est la justification théologique des indulgences, les fameuses indulgences de la Réforme, qui ont été critiquées par la Réforme, puisque ce que les hommes ont la grâce de pouvoir faire, en plus de ce qu'il devait faire en tant qu'être soumis aux impératifs de la justice, est thésaurisé par l'Église. Ce surcroît de bien, au-delà du bien qui est attendu et nécessaire et exigible de chacun est thésaurisé par les actes charitables des saints, et c'est grâce à ce trésor des actes charitables des saints que l'Église se propose de racheter les âmes en purgatoire. Et donc, la médiation, c'est un truc qu'on a complètement oublié, mais qui fait que l'indulgence existe toujours dans l'Église catholique contemporaine, les indulgences, si vous faites ceci ou ça, le principe théologique des indulgences, sauf qu'elles ne sont plus vendues au plus grand bénéfice de la papauté, mais c'est toujours un concept théologique actif, dans la mesure où, justement, la grâce que fait l'Église, c'est de pouvoir utiliser ce trésor d'actes charitables pour compenser les peines des âmes qui sont en purgatoire et diminuer les peines des âmes. Donc n'allez surtout pas croire que tout cela est hors sol, complètement condamné à être de pure spéculation philosophique. Ça a structuré en réalité une vie morale, une appréciation de ce que les hommes étaient capables de faire au-delà de la justice, qui a littéralement façonné des débats historiques et avec des conséquences comme la réforme et la contre-réforme. La contre-réforme insiste beaucoup sur la notion d'indulgence, sauver les indulgences, donc le poids de l'Église dans la gestion de ce capital des actes charitables des saints, qui est très épais. Bon. Quand on est dans cette épaisseur-là, eh bien vous apercevez que Sade, dans le libertinage cruel, féroce et pornographique auquel il se livre, est pris dans cette patte-là, cette patte anthropologique. Et ce qu'il écrit dans l'histoire de Juliette, et pourquoi il termine Juliette à Rome, est tout à fait averti des nuances et de l'impact moral et social du type de catégorie nouvelle qu'il propose pour penser les crises morales de l'individu qui émerge, et en particulier la figure de l'individu radicalement égoïste dont la capacité de nuisance devient infinie dans le monde moderne. L'histoire de Juliette est donc une réponse, c'est comme ça que je lis l'histoire de Juliette, une réponse à ces difficultés philosophiques. D'abord, l'histoire de Juliette affirme la positivité du mal comme un effet de la volonté mauvaise. C'est un retournement, en quelque sorte, de la première phrase de la métaphysique des mœurs de Kant, n'est-ce pas, où Kant dit qu'il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons dire absolument bonne, c'est la bonne volonté, qui est vraiment une thèse extrêmement puissante de l'individualisme bourgeois libéral au XVIIIe siècle. Hein, c'est la première phrase de la métaphysique. Il n'y a qu'une chose que nous pouvons dire absolument bonne, aucun objet, aucun bien, rien, etc., une bonne volonté, eh bien, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une chose que nous pouvons dire absolument mauvaise, c'est une mauvaise volonté, c'est-à-dire la malfaisance individuelle. Ça, nous pouvons le dire de façon absolument certaine, c'est ça qui est le vrai mal. La deuxième chose que fait Sade dans son développement immense de l'histoire de Juliette, c'est de se demander, au fond, si quand vous partez de la problématique de la volonté, vous n'êtes pas condamné à articuler la volonté de l'individu à la volonté infiniment mauvaise d'un Dieu qui crée un monde en harmonie et répondant aux aspirations de la volonté mauvaise des hommes. Et dans le discours de Saint-Fons, le ministre Saint-Fons, Dieu est ainsi redéfini, et c'est comme ça que Klosowski et Lacan vont venir le chercher, comme un être suprême en méchanceté. Dieu est l'être suprême en méchanceté. Et on fabrique ainsi un Dieu inversé, où l'ensemble de l'édifice, volonté bonne, Dieu bon, etc., qui est normatif dans les conceptions morales traditionnelles imprégnées de théologie, se trouve en quelque sorte pris dans une sorte de négatif photographique, avec la reconstruction parallèle d'un système inversé d'un Dieu infiniment mauvais correspondant à une volonté infiniment mauvaise. Or, à l'intérieur même du texte, aussi bien Noirceuil que Clerville, font à Saint-Fons une objection. En général, quand les libertins se font une objection, celui qui a raison tue celui qui a tort. Il empoisonne, il le découpe en morceaux, il le viole, il le suspend à des crochets. Il ne faut pas avoir tort dans une dispute avec un libertin dans l'histoire de Juliette. Et donc, Saint-Fons finira lui-même par mourir, par être assassiné. Mais ils lui font cette remarque que ce n'est pas assez matérialiste, parce que ce qu'a fait Saint-Fons dans sa théorie, c'est juste d'inverser la religion et pas de la renverser. D'inverser le schéma religieux et la construction de la morale à partir d'un schéma religieux et théologique, et non de nous émanciper définitivement et radicalement dans un athéisme total et systématique de la religion. Et de fait, de la même manière qu'il y a des superstitions dans la religion positive, on se trouve avec des superstitions dans la religion négative, et Saint-Fons paraît extrêmement intéressé par l'idée de pratique de sorcellerie qui serait en quelque sorte la religion inversée qui correspond à la religion, aux croyances de superstition propres à la religion positive. Et comme lui fait remarquer également Clerville et Noirceuil, non seulement il conserve de la superstition et donc il n'est pas dans l'ordre de la raison, mais le simple maintien de la notion de volonté implique qu'une volonté, pour être une volonté, pourrait vouloir le contraire. Sinon, ce n'est pas un concept de volonté si elle ne peut vouloir qu'une chose. Et que tant qu'on a conservé la notion de volonté, on ne peut pas avoir accès à un mal absolu, puisqu'à l'intérieur de cette volonté que veut le mal absolu se cachent les possibilités de vouloir le contraire et donc le bien. Lorsque je fais cette remarque, c'est pour souligner que souvent les commentateurs de l'histoire de Juliette ont été fascinés par le fait que le roman a la forme littéraire du roman picaresque. Voilà. C'est-à-dire du roman de Picaro, du roman classique au XVIIe puis surtout au XVIIIe siècle, dont la première matrice, au fond, c'est Don Quichotte de la Manche, hein, c'est la séquelle des romans de chevalerie, dans lequel vous suivez les mésaventures et les aventures d'un personnage auquel il arrive toutes sortes de choses, de rencontres, etc., mais qui n'est pas encore véritablement un roman de formation, puisqu'il y manque, hein, au roman picaresque, l'idée d'une accumulation de l'expérience qui façonnerait et révélerait les potentialités de l'individu. C'est pas avant Titan ou bien les années de voyage de Wilhelm Meister, par exemple, qu'on a des romans de formation. Donc ce sont des formes intermédiaires entre le roman comme ça de chevalerie et le roman de formation. Sauf que ce n'est pas du tout parce qu'il a pris le modèle d'un roman picaresque. C'est parce que la logique même du passage au pire implique que le concept du mal chez Sade est médié par celui d'un gradus libertin. C'est-à-dire, il y a un gradus libertin, on passe d'étape en étape dans une série ordonnée où chaque moment et chaque tableau doit être surmonté et détruit pour passer à l'étape suivante et au pire. Et donc on trouve comme ça, chose que vous trouvez d'ailleurs cliniquement dans la grande perversion, n'est-ce pas ? Puisque, comme vous savez, un des seuls indices qu'on ait jamais trouvé pour repérer les tueurs en série, c'est qu'ils commencent par les animaux. Un nombre considérable de grands tueurs en série ont commencé par les chiens et les chats. Et au point d'ailleurs que, paraît-il, le FBI repère les endroits où il y a des massacres de chiens et de chats, parce que c'est un des signaux d'alerte de l'arrivée dans le monde de quelqu'un qui va passer aux enfants ou aux adultes. Bon. Donc il y a cette idée comme ça d'un gradus, ça passe par différentes étapes. Hein. C'est là, ça a façonné notre perception de la perversion. Ce gradus, c'est celui qui consiste justement à aller toujours plus loin et dans une logique de transition vers le pire, n'est-ce pas, qui, dans l'histoire de Juliette, au moment où elle est séparée de Justine, sa sœur, alors c'est l'éloge de l'onanisme chez les enfants, puis avec les enfants, puis des enfants avec les adultes, surtout si ce sont des gens consacrés, des religieuses, des prêtres, etc. Le blasphème, la prostitution, le vol, le viol, le meurtre, tout ceci à titre de hors-d'œuvre, jusqu'à ce qu'on arrive à l'anthropophagie, l'empoisonnement grand et autres exercices démoniaques hein, de la puissance perverse. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le marquer. C'est le concept d'un gradus libertin, c'est-à-dire d'une pensée du mal comme franchissement vers le toujours pire, qui ordonne la construction du roman, qui se trouve ensuite trouvé dans la forme du roman picaresque, quelque chose dans lequel il peut s'énoncer et passer dans le langage et surtout devenir diffusable, ce qui est le point sur lequel je terminerai. Alors maintenant, ça c'est un des premiers points. Une autre solution qu'il donne à la question de la volonté mauvaise, c'est que si vous avez un mal positif, vous avez une grandeur négative dans le faire de mal, c'est que vous pouvez justement ordonner ce gradus à l'idée de perfection négative. C'est-à-dire qu'un pervers, ça se perfectionne dans le mal. Que le vrai critère du pervers, c'est pas ce qu'il fait. C'est l'idée que c'est pris dans une perspective de perfectionnement dans le mal. Ce qui d'ailleurs, je trouve, et même pour le clinicien, un indice extrêmement fort de ce à quoi il a affaire, et qui distingue les gens qui font des choses invraisemblables ponctuellement, et ceux chez qui c'est ordonné à une trajectoire exploratoire, dans lequel ils ont commencé par les animaux, ensuite ils vont faire les enfants, et puis les enfants de plus en plus jeunes, et puis ils vont les violer, et puis ensuite ils vont les torturer, et puis ensuite ils vont les tuer, et, etc., etc. Dans une sorte comme ça de projet qui s'élabore très très fort. Par exemple, dans la littérature contemporaine, je pense à des gens comme Dennis Cooper, par exemple, hein, ou bien, alors il est décédé aujourd'hui, à Guillaume Dustan, hein, qui annonce, hein, de roman en roman, qui annonce littéralement ce qu'ils vont faire. Chez Dennis Cooper, c'est très impressionnant, hein, parce qu'il annonce le type de transgression pédophile auquel il va se livrer, et qu'elle est inscrite comme un programme, n'est-ce pas ? Que justement on a l'impression dans les romans qui se succèdent chez cet auteur, hein, que c'est vraiment très sadien en ce sens, c'est un vrai programme. Sauf que la solution finale de Sade, elle n'est pas celle de Saint-Fond. Elle est dans le discours le plus sublime qui a été écrit, à mon avis, de métaphysique spéculative finissante, comme ça. On est vraiment à la charrière de la fin de la grande métaphysique spéculative du XVIIe siècle et le début de la philosophie après les Lumières. On est vraiment chez Sade dans une sorte de moment intermédiaire. C'est le discours du pape Braschi. Alors, comme je l'ai très, très soigneusement décrit dans mes travaux, je ne vais pas revenir très en détail, dans le détail très complexe de l'argument que Sade met dans la bouche du pape Braschi, qui combine des lectures de Malebranche, qui combine des lectures des néo-épicuriens matérialistes de son temps, et qui surtout mobilise dans le registre de la morale une des avancées problématiques de la physique de son temps, qui est la question de la contingence des lois de la nature. Problématique qui a d'ailleurs une grande postérité en épistémologie, en histoire des sciences. La question de savoir si les lois de la nature sont contingentes ou pas. Si les lois de l'accélération de la chute des corps, par exemple, si ça aurait pu être un cube plutôt qu'un carré, ou des choses de ce genre-là, qui est d'autant plus vive au XVIIIe siècle que comme on commence à avoir des approches expérimentales, on n'est plus du tout dans le paradigme newtonien, on commence à avoir une mathématique, hein, de description de l'ordre du monde, de l'ordre divin du monde, mais d'une expérimentation avec des tentatives justement de mesurer les forces vives, etc., la question se pose de savoir si on est dans l'empirie, si les lois mathématiques de la nature pourraient être autres qu'elles ne sont, et si c'est au fond les lois mathématiques sont découvertes par l'expérimentation physique ou pas. Question qui occupe tous les physiciens du XVIIIe siècle, auxquels Kant répond en disant que ce sont des structures a priori de la subjectivité qui rendent nécessaires les lois de la nature et que donc elles ne sont pas contingentes en ce sens-là. Sauf que Sade en fait un usage complètement vertigineux et amoral, un usage amoralisant, en disant qu'il ne saurait y avoir aucune loi, même morale, qui ne soit ontologiquement contingente. C'est pas contingent parce que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme dit Pascal. C'est pas de la pure convention. C'est la nature même des lois, en tant que lois, qui fait qu'elles sont à chaque fois récusables en doute. Alors, je laisse un point, mais que je signale néanmoins, c'est que Lacan a beaucoup insisté sur les sophismes de Sade dans ce discours de Braschi. Or, ce que cite Lacan est absolument faux. C'est-à-dire que la façon dont Lacan reconstruit le discours de Brasky, c'est une erreur de lecture absolument objectivable, extrêmement simple. Il commet un contresens absolument particulier, si bien qu'on a plutôt l'impression qu'en fait c'est Lacan qui commet un sophisme sur le texte de Sade parlant dans la bouche de Brasky, et qu'il a absolument tort, et que ce qu'il impute comme des raisons à Sade, c'est beaucoup plus un argument mécompris et même défiguré, et même si ce n'est pas au lieu de le montrer en détail, il n'y a aucune espèce de raison de croire qu'on a établi la fausseté de l'argument. Alors, le mal ontologique auquel on arrive au discours, ce tout mal final de la nature, que Brasky met en évidence, ça n'est plus une affaire de volonté, c'est la destruction infinie, se déchaînant sans fin, sur ses propres débris qu'elle réengendre dans un surcroît de destruction et qui servent de cible au déchaînement toujours exponentiel de la destructivité. Et ceci est réengagé sans fin en un cycle. Et la jouissance n'est rien d'autre que cette déviation destructrice, c'est une relecture d'ailleurs du clinamen épicurien, de la voluptas épicurienne, n'est-ce pas, comme déviation introduite dans le cours des choses, déviation qui est auquel Sade attache ontologiquement une valeur d'absolue destruction. Une des choses les plus bouleversantes pour nous, c'est que avec ce texte de Brasky, une page, je pense, anthropologique se tourne. C'est que pour nous, la jouissance, ce que nous appelons la jouissance, ne peut être qu'une modalité affective du sujet. Ce que vous avez dans ce texte de Sade, c'est le dernier moment où la jouissance, c'est une chose réelle dans le réel. C'est-à-dire que quand vous avez aboli la distinction entre le sujet et l'objet dans le matérialisme intégral, la jouissance ne peut pas être quelque chose qui serait une simple affection particulière d'un individu à distance des objets, s'en affectant, en souffrant, etc. La jouissance, si vous abolissez radicalement la distance sujet-objet dans ce matérialisme intégral, se trouve être, et c'est la dernière fois que ça apparaît dans la figure, avec Diderot, avec Sade, après ça va complètement disparaître du paysage pour peut-être ne revenir que dans la littérature, je laisse la chose en suspens, hein, dans la littérature surréaliste par exemple. La jouissance, et c'est la dernière fois qu'elle apparaît comme une chose parmi les choses. Et c'est ça probablement qui nous rend le texte profondément illisible. C'est extrêmement difficile de lire un texte comme ça, dans lequel les coordonnées dans lesquelles il est écrit et ce à quoi il fait appel sont si étrangères à celles dans lesquelles nous apprécions ce que c'est que la subjectivité. Et c'est d'ailleurs le mot de la fin de l'histoire de Juliette, hein, c'est que dès ce moment, tout crime qui n'est pas conforme à la nature et qui n'est pas conforme à la destructivité infinie que montre la nature, n'est pas suffisant. Et c'est à l'intérieur de ce schéma d'une destructivité absolue que vous voyez, comme je disais, pour la première fois apparaître, le projet d'une destruction méthodique de l'humanité, d'un meurtre généralisé de tous les hommes un par un, et la figure de ce que nous appelons aujourd'hui le génocide, comme quelque chose qui peut être pensé, organisé, voulu, systématisé, sous ses formes les plus horribles, impliquant torture, viol, meurtre, assassinat, etc., dont la catégorie ne pouvait pas circuler avant Sade. Et c'est cette tentative, en quelque sorte, extrêmement argumentée, qui fait de la philosophie morale spéculative de Sade probablement, à mon avis, la plus raffinée de son temps. J'arrive au dernier mouvement de mon exposé, mais qu'est-ce qui fait littérature dans tout ça? D'où vient, au fond, l'effet, le moment littéraire? Eh bien, de deux choses. D'abord, la première chose, elle passe inaperçue, elle n'est jamais reprise, alors qu'elle est pourtant explicitement mentionnée très consciemment et très réflexivement par Sade à la fin de l'histoire de Juliette. C'est que ces textes, les textes de Sade, sont des écrits. Il n'en parle pas, comme de romans, de textes littéraires. Il dit ce qui compte, c'est que ce sont des écrits. Et ces écrits, nous survivrons, disent les libertins. Ce que nous avons écrit le point extrême de méchanceté, de perversion, d'idées atroces que nous avons forgées et dont nous avons donné l'idée, se perpétuera parce que cette littérature clandestine passera sous le manteau, défiera la censure, excitera les censeurs, et que les gens appâtés par la dimension érotique dans laquelle s'amorce le Gradus libertin, bien au-delà de nous, et alors que notre nom d'auteur aura disparu, ce qui était le sort des manuscrits de Sade, le nom d'auteur était effacé, il circulait comme ça, se perpétuera et continuera à infecter les enfants et les jeunes gens. La visée, c'est bien sûr la masturbation. Un continuera à infecter les enfants, bien au-delà de notre mort, et il s'en trouvera bien un qui, un jour, trouvera les moyens d'accomplir ce qui, pour nous, n'était qu'un projet. Un projet conceptuel. C'est d'ailleurs le but déclaré des courtisans du pape Braschi, que la pire corruption leur survive, et que ce qui est aujourd'hui impossible à mettre en œuvre, comme crime, reste une ressource pour exciter des malfaisants futurs. Je crois qu'il y a, mais je me trompe parce que ce n'est pas mon métier peut-être, mais je crois qu'il y a un exemple auquel nous pouvons penser aujourd'hui de quelque chose de ce genre-là. Ce sont les textes dits interdits de Céline que vous pouvez vous procurer en trois clics en cherchant sur Internet. Il n'y a que ces textes interdits de Céline qui nous donnent une idée de ce qu'un texte fait pour propager et rendre désirable la haine à l'état pur. Et je crois que Céline n'aurait pu que se, dans sa dimension extrêmement perverse et maniaque, puisque c'était quand même ça qui était le cœur de son tableau, en quelque sorte. C'est quelque chose qui n'aurait pu que plaire à Céline, l'idée qu'en fait, plus les textes sont interdits, plus ils circulent sous le manteau, plus leur puissance corruptrice est incroyable. D'autant que si vous les avez ouverts, ces textes interdits, il y a quand même, c'est quand même une des choses que je ne cesse de mentionner, dans Bagatelle pour un massacre, parmi les plus belles pages de Céline. Les plus belles. Sauf qu'il est interdit de les lire. Le récit du ballet, enfin c'est complètement inimaginable. Tout ceci ponctué d'une haine antisémite, mais tellement effroyable, qui vous glace le sang quand vous lisez le texte, et de jugements politiques extrêmement lucides sur l'Union soviétique de Staline et sur la tromperie stalinienne et sur le fait que tous ces gens qui croient que l'Union soviétique c'est un paradis, etc., ils racontent exactement puisqu'il y a été, qu'il a vu. Le mélange entre la beauté, la lucidité politique et un antisémitisme dont il n'y a pas d'exemple, même dans les pires pamphlets que vous puissiez aujourd'hui, avec des vœux, des projets de meurtre, d'assassinat, d'avilissement vengeur de la figure du juif, etc. Tout ceci raconté dans une prose incroyable. Je trouve ça assez... Pour nous, Céline peut être un indice de ce que c'est que le texte corrupteur. C'est-à-dire que il est profondément séduisant et il maintient en vie des schémas de pensée comme s'il en infectait le langage et l'affectivité pour qu'il puisse s'appuyer pour un jour être remis en œuvre, pas en passant par l'érotisme, mais en passant par la haine des juifs, par quelque chose de ce type-là. Donc ça, c'est le premier point. Ce sont des écrits. Deuxième chose, la littérature, c'est une manière d'habiller ces écrits. Chose qui compte, c'est que ça reste comme des textes qu'on se passe sous le manteau. La littérature, elle habille cette lettre, cette instance de survie de la volonté malfaisante au-delà de la vie et du nom propre de l'auteur. En particulier parce qu'elle est érotique et qu'elle vient chatouiller le lecteur à un point d'inversion qui est absolument clairement identifié chez Sade et qu'il met dans la bouche de la Delbène. Que je vous lis, parce que c'est quand même ce que Clerville reproche à Juliette, qui est encore un peu jeune dans le Gradus libertin, c'est la phrase suivante. « C'est au flambeau du crime qu'il faut allumer celui de ses passions, tandis que ce n'est qu'à celui de ses passions que je la soupçonne d'allumer celui du crime. Mais une fois que Juliette sera guérie de ce travers, hein, de cette insuffisance, Juliette, dit Clerville, n'aura plus besoin de se branler pour commettre un crime, mais en commettant ce crime, elle désirera de se branler. Ça, c'est ce pivot-là qui est celui que l'écrit vient transporter de manière à ce que le texte de Sade reste absolument corrupteur et que les gens appellent ça de la littérature, de l'humour noir, etc. Tandis qu'on est bien sûr, disent les libertins qui environnent le pape Braschi, qu'un jour quelqu'un, ça, ce qui est décrit, il l'essaiera. Ces tortures-là, ces crimes-là, un jour il l'essaiera, pendant que tout le monde fait comme si c'était que de la littérature. Alors bien sûr, le gradus libertin, comment il fait littérature? Il fait littérature au sens où il implique un effet de tableau, de scènes successives, ces fameuses représentations visuelles, mécaniques, des corps qui se combinent et qui se décombinent, et donc mobilise une forme de représentation picturale dans la transcendance vers quelque chose qui est toujours encore pire, puisque pour que vous ayez cette transgression, il vous faut de la scène qui, la scène suivante, va s'avérer encore plus effroyable que la scène précédente. La littérature, elle émerge dans cette visualisation, ut pictura poesis, c'est-à-dire dans quelque chose qui est mis au service d'un projet de transgression, de manipulation très profonde, de réforme de l'entendement moral, jusqu'à ce que nous touchions du doigt le mal et la destructivité ultime de la nature. C'est pour ça que ce n'est pas une idée absurde de penser à l'infini, comme Blanchot l'a pensé, à l'infini chez Sade. C'est aussi chez Sade, chez les poètes romantiques allemands, il y a cette idée qu'au fond, la littérature devient infinie en transcendant la représentation. Chez les grands poètes romantiques allemands, c'est vraiment un lieu commun, à la fin du XVIIIe siècle, de penser ainsi cette transgression du purement représentatif vers un infini. Et c'est une des sources d'ailleurs de Hegel et de la phénoménologie de l'esprit. Simplement, selon l'hypothèse que j'ai défendue aujourd'hui, c'est là un effet en second, un effet dérivé d'une élaboration qui est d'abord intellectuelle et conceptuelle. C'est-à-dire que ça prend la forme de l'écrit et s'est habillé en littérature et en scène successivement, parce que c'est justement au départ quelque chose qu'il faut prendre sérieusement comme un projet de corruption universelle de l'humanité, de préservation du trésor des crimes possibles, et de contamination des générations futures jusqu'à ce qu'on puisse réussir à trouver quelqu'un qui tuera tout le monde, qui enfin éliminera l'humanité et produira le plus grand des mâles possibles. Et je voudrais terminer sur une formule provocante, c'est parce que nous n'avons plus à concevoir à quel point la philosophie morale peut être dérangeante que nous croyons la sauver en la considérant comme de la littérature. Et que ce que je viens de vous dire de Sade pourrait certainement s'appliquer à Kierkegaard, à Nietzsche et même à Freud. Merci.